OK. Donc, on parle de la controverse donatiste. Donc, c'est aux environs de l'année 300, qui dit où une persécution sous l'empereur Dioclétien, qui était réclamée par les prêtres païens contre les chrétiens. Et il demandait que les sanctuaires et les livres chrétiens soient brûlés. Et donc, il y avait cette persécution qui était le pire de toutes les persécutions jusqu'à ce moment-là. Par la suite, il y a Constantin qui fait les propositions aux évêques qui se sont présentés pour le Concile de Nicée. Et donc, un des évêques à Rome s'appelle Sylvestre, et par la suite, un autre qui s'appelle Léon. Et eux, ils ont accepté les propositions de Constantin. Alors, jusqu'à ce point-là, à ce moment dans l'histoire, les baptêmes arrivaient, donc les chrétiens se baptisaient, se faisaient baptiser dans les rivières, dans les bains publics, dans les bains privés, et même ils se faisaient baptiser dans les rivières souterraines, dans les catacombes. Donc, avec l'arrivée de la respectabilité par rapport à Rome, l'Empire, eh bien, ils ont fait les premiers baptistères parce qu'ils pouvaient avoir les bâtiments officiels. Donc, par exemple, Constantin, non seulement il a fait écrit à la main donc 50 exemplaires de la Bible entière en grec, mais aussi il a construit des bâtiments religieux chrétiens. Pourquoi on fait une telle chose? C'est pour se faire pardonner de ses péchés. Okay? Mais avec l'argent de l'État. Donc on a vu l'arrivée des premiers baptistères. Alors, donc, vers l'année 311, il y a le nom Donatiste qui va apparaître. Et il y a on considérait les donatistes ou le donatisme comme une hérésie. Il fallait le extirper et officiellement, le donatisme était détruit au même siècle que le nom a apparu. On peut dire que le donatisme était un réveil contre le sacramentalisme qui s'installait de plus en plus et que plus tard c'était un mouvement contre le constantinisme. Alors les donatistes insistaient sur le fait que l'Église est basée sur la foi personnelle et que les membres devaient être que les sauvés et non pas tous les gens qui habitaient dans une communauté. Donc avec Constantin, on a l'idée qui se construit que tous les gens d'une communauté peuvent, c'est pas tout de suite avec Constantin, mais ça commence à se construire sur les principes que Constantin a établis, qu'on appelle les églises de masse. Les églises de masse, c'est quand tous les gens de la communauté appartiennent à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils font partie de l'État. Nous, on a l'Église des confesseurs, ceux qui confessent Jésus, ceux qui sont convertis à Jésus. Nous, les croyants, font partie de l'Église. Mais la masse de la population, donc, qui, de toute évidence, ne croit pas en Jésus, ne fait pas partie de l'Église. Donc, pour nous, l'Église se fait des croyants. Et ce mouvement qui est devenu le mouvement principal pendant plusieurs siècles, c'était que tous les gens croyants et non croyants faisaient partie de l'Église, ce qui est faux. Donc, à travers les siècles par la suite, on va parler des divers groupes comme les Anabaptistes, on va dire, oh, c'est les Donatistes. C'est les gens qui ne veulent avoir que les croyants dans l'église locale. C'était dit de manière péjorative. Ah, ben c'est les Donatistes. Ils ne veulent qu'avoir des croyants dans l'église. Parce que nous acceptons tout le monde dans notre église. Les croyants et les non-croyants. Mais c'est pas biblique, cette idée-là. Un écrivain parlait des Donatistes en donnant un peu leur doctrine. La pureté des membres de l'Église est inadmissible que ceux qui visiblement sont des vrais croyants. Pureté des membres de l'Église, donc ceux qui ont l'espérance de Jésus en eux se purifient comme Jésus est pur. Donc c'est normal que les chrétiens veulent être purs sans pour autant dire que je veux purifier toute la société. Hein, c'est deux choses différentes, n'est-ce pas? Aussi, donc, les Donatistes croyaient à une discipline dans l'Église, donc, pour justement maintenir que les membres de l'Église qui vivaient comme le monde, qu'ils ne soient plus, pendant ce temps-là, les membres de l'Église locale. Les Donatistes croyaient à l'indépendance de chaque Église. Et les Donatistes rebaptisaient ceux qui avaient donc été baptisés, mais on avait raison de douter le baptême. Peut-être parce qu'ils ne savaient pas comment exprimer leur foi en Jésus, donc on se demande, mais pourquoi vous êtes baptisés? Donc peut-être ils disaient une chose comme, ah ben parce qu'on me l'a imposé. Donc oui, on l'a rebaptisé. Mais on n'a pas beaucoup de détails sur cela. Donc, vous allez vous souvenir que ceux qui rebaptisent sont appelés rebaptiseurs ou anabaptistes. Ana voulant dire une seconde ou un autre baptême. Alors, il y a beaucoup de groupes chrétiens à travers les siècles qui rebaptisaient. Donc, est-ce que c'est des groupes différents ou des mêmes groupes qu'on appliquait des noms différents? Donc, il y a un autre groupe un peu plus tard qui va être appelé les Pauliciens. Les Pauliciens. Pourquoi les Pauliciens? Parce qu'ils suivaient la doctrine de Paul. Donc, on pourrait dire que nous sommes des Pauliciens parce que nous aussi, on applique la doctrine de Paul, mais on applique aussi la doctrine de Jean et de Pierre et de Jacques. Et de Jésus, et etc., etc. Donc souvent, dans les persécutions et dans les noms péjoratifs, on va focaliser sur un petit détail pour simplifier les choses et puis raconter des mauvaises choses pour susciter la population contre tel mouvement. Les Donatistes étaient aussi surnommés les cathares. On utilise ce mot en France. Hein? Mais ce n'est pas le même siècle. Les Donatistes, le nom apparaît dans le 4e siècle, le même siècle que Constantin, et disparaît dans le même siècle, le 4e siècle. Tandis que le mot cathare appliqué en France, ce nom apparaît dans les années... la fin des années 1100 et puis est exterminé avant la fin des années 1200. Donc, on pourrait avoir les noms qui sont utilisés parce que le mot cathare veut dire purifier. Donc, c'est un mot biblique. On est purifié de nos péchés. Jésus est pur en soi, nous sommes purifiés. Et donc, d'autres groupes pourraient parler de la pureté. Ce n'est pas uniquement les Donatistes ou les Pauliciens ou les cathares qui parlent de la pureté de la vie chrétienne. Et donc, on pourrait, d'une manière ou d'une autre, appeler des gens par ce mot cathare. Ou, ça se peut que ce soit le même groupe, mais des siècles plus tard. hein, ou une partie de ces groupes. Mosheim, qui est un historien, je crois que Mosheim est un historien luthérien, si je ne me trompe pas, a écrit concernant les donatistes, ils rebaptisaient ceux qui venaient à eux des catholiques. Et donc, dans le quatrième concile de Latran, on avait décrété que les rebaptiseurs devront être mis à mort. Pourquoi? Parce que c'est un crime d'État, du fait que le baptême est devenu un acte d'État. Donc, de renier le baptême d'État veut dire qu'on renie l'État. Donc, on est traître à l'État. Donc, il ne fallait pas mélanger les trucs. Mais ils l'ont fait. Et donc, quand on se faisait rebaptiser, ça faisait qu'on reniait l'État. Donc, la personne était digne de mort dans leur optique. Un autre auteur qui s'appelle Robinson les appelle les baptistes trinitaires. Ils tenaient à l'indépendance des églises et à l'égalité des pasteurs quant à leur dignité et leur autorité. Donc, un pasteur n'a pas plus d'autorité qu'un autre pasteur. Donc, dans le monde ancien, on commençait à construire cette hiérarchie que nous reconnaissons maintenant chez les catholiques, qui est super développée aujourd'hui. Mais dans le temps, c'était développé à peut-être 3 ou 4 niveaux. Mais les donatistes, comme tous les baptistes toujours, ils ne croient pas à une hiérarchie. Tout le monde, tous les pasteurs ont le même niveau, la même autorité, et leur autorité ne concerne que leur église locale. Un autre auteur, David Benedict, il dit, après avoir fait des recherches en se plongeant dans de vieux manuscrits comme source, écrivait une histoire des donatistes. Donc, en principe, on devrait pouvoir trouver dans une librairie ancienne un livre qui s'appelle « Histoire des donatistes » par David Benedict. Et il dit que c'était une organisation congrégationaliste, donc ça c'est comme nous, on est congrégationaliste. Ce n'est pas que les baptistes qui sont congrégationalistes, mais les baptistes sont congrégationalistes, ça veut dire que c'est la congrégation qui gère ses propres affaires. C'est le groupe qui gère ses propres affaires. C'est le groupe qui élit un pasteur. Et quand le pasteur ne correspond plus aux attentes de l'assemblée, eh ben, l'assemblée, comment ça s'appelle, déélire, on va enlever le mandat et donner le mandat à un autre. Mais ce n'est pas une autre église, un autre pasteur qui va faire ça. C'est l'église locale qui doit gérer ses propres affaires. Ça, c'est l'idée congrégationaliste, la congrégation, le groupe fait ça. Il tenait à la liberté absolue de conscience, la séparation absolue de l'État, de l'église et de l'État, et il croyait au fait que l'Église ne soit composée que des membres régénérés exclusivement. Donc on parle un petit peu d'une certaine Donna, donc peut-être le nom de ce mouvement était appliqué vis-à-vis de cet homme, Donna, donc donatiste. Mais il n'est pas peut-être la personne qui a démarré le mouvement, mais seulement une porte-parole qui est devenue plus visible. Et donc on a donné son nom à ce mouvement. Donna, évêque de Carthage, refuse de recevoir les commissaires impériaux Paulus et Macarius en s'écriant, donc il donne une phrase en latin qui veut dire « Qu'y a-t-il entre l'empereur et l'Église ?» Donc ça c'est dans l'année 347. Donc 325 à peu près, c'est le concile de Nicée. Donc 20-22 ans plus tard, toutes les églises ne sont pas encore liées à ce mouvement catholicisant. Donc lui était évidemment contre cette idée-là. Un évêque donatiste qui s'appelle Petilien en Afrique, contre qui Augustin avait écrit, en réfère à Christ et aux apôtres qui n'avaient jamais persécuté personne. Pensez-vous servir Dieu en nous tuant de votre main? Donc il parle aux chrétiens liés à l'État. Vous vous trompez si bien, pauvre mortel, pensez-y. Dieu n'a pas de bourreau pour prêtre. Christ nous enseigne de supporter les torts et de ne pas nous venger. De même, un autre ancien écrivain avait dit, il s'appelle Gaudenius, Dieu a chargé des prophètes et des prêcheurs et non pas des princes et des soldats pour répandre la foi. Donc, ce mouvement représente déjà dans le premier siècle de l'Église catholique romaine le conflit qui est créé quand on lit l'État et l'Église ou l'État et la religion. Donc on a des chrétiens maintenant qui persécutent des chrétiens. Certains donc même condamnés à mort parce qu'ils ont une pratique différente. Et la pratique différente, c'est d'être attaché à la parole de Dieu, en fin de compte. Donc c'est triste quand ces choses arrivent comme ça. Et c'est le genre de choses qu'on veut éviter, de se laisser lier par la politique et de se tourner contre les frères, que ce soit des gens d'optique différente, mais on ne veut pas être persécuteur. Ce sera horrible. Ça, c'est tout pour ce soir.